L'angoisse d'habitants de Dimbéa, une maison a été touchée par les flammes hier à la Pointe à la Dorade où le vent a attisé le feu. Reportage dans ce journal. Un jeune de 24 ans arrêté à Point-d'Imier, il a reconnu avoir mis le feu à l'église de Thiers le 14 août dernier et d'avoir cambriolé la mairie de la commune au mois de mai. Emmanuel Macron visite une base militaire du Grand Est de la métropole. Elle forme des soldats ukrainiens. Demain, le chef de l'État rencontrera Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Le sport, la fierté de Suzanne Wojcicka. À 23 ans, elle va porter le maillot de l'équipe de France. Elle jouera face aux Hongroises. Ce sera d'ici la fin du mois. Et puis en sport, on parlera également de la très belle performance d'Axel Raymond. Il est vice-champion du monde de force athlétique en catégorie M1, 93 kg. La météo, les nuages dominent toujours sur la pointe sud. L'île des Pins est marée. Ailleurs, le soleil est bien présent, en particulier sur la pointe nord. Les températures de la journée sont proches des moyennes de saison, souvent entre 26 et 28 degrés et jusqu'à 31 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité sur le territoire.
Oui, et Dimbéa qui fait toujours face au feu de brousse. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés sur la ZAC Panda, tandis qu'un incendie a brûlé une maison hier à la Pointe à la Dorade, Léana Colombo.
Et les conditions sont propices à la propagation rapide des flammes. Des évacuations d'habitations ont été menées hier après-midi dans le secteur du Pic aux Chèvres, près de la ZAC Panda. Certains résidents d'un lotissement ont vu les flammes venir à proximité de leur maison, écoutez leur témoignage.
On ne pensait pas que le vent allait tourner et venir sur nos habitations. On a vu que la terrasse a pris feu.
On a eu les protections qui sont en dessous le toit, qui sont en plastique, qui ont fondu littéralement. On avait un petit peu sécurisé, on a tout fermé, on est rentré, on n'a pas vu grand-chose, mais on n'a pas été sur la terrasse. Le jardin a un petit peu pris feu, mais c'est pas grave. Par contre, effectivement, là, les flammes étaient vraiment très impressionnantes. Et puis avec le vent, ça allait vraiment très, très vite. On a évacué très rapidement parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. La première fois que je suis rentré dans la maison, ça sent un peu la fumée, mais on avait tout fermé par sécurité. À part l'odeur de brûlé, je pense que ça va aller.
En tout cas, je remercie infiniment les pompiers parce que depuis le temps qu'ils sont là, ils sont formidables.
Ils n'ont pas un moment de répit hein, parce que là, un coup sur Pointe à la Dorade, un coup sur ZAC Panda, ça part dans tous les sens et ça continue. On n'a qu'à voir, il y a des points de qui sont encore en feu et avec le vent qu'il y a, je ne sais pas comment ils vont faire.
On essaie de sauver la maison de ma fille parce que là, le voisin à côté, vous voyez à côté, là, l'arbre il a brûlé, là, ça a fait fondre toute la toiture, là, le PVC de la toiture. Là. Donc nous on essaie d'éloigner le feu des maisons, quoi, des habitations.
Du coup les garçons sont venus.
Mes deux beaux-fils, mon fils sont là, on essaie de nettoyer un peu pour pouvoir aider les pompiers.
On attend de pouvoir rentrer dans les maisons, je crois que ma terrasse est brûlée. Si c'est que la terrasse, c'est pas mal que ça s'arrête là, c'était impressionnant. La peur de ma vie moi, la peur de ma vie. J'ai eu très très peur. Les flammes ont dépassé la terrasse et la terrasse on l'a en hauteur. On l'a pas de plein pied, non ça a été impressionnant. Et ça a été très vite, très vite. C'est tellement sec aussi que c'est sec, c'est pas entretenu cet endroit-là. Hein. C'est la brousse qu'il y a derrière les maisons. Ça a été très très vite, ouais.
Certains habitants n'hésitent pas à faire part de leur exaspération face à ces incendies dans une période où tout départ de feu peut avoir des conséquences très graves.
Nous on a eu un incendie il y a quoi ? Deux semaines de ça ? Donc c'est des gens qui font de leur chance, pour moi c'est pas criminel, hein. C'est des gens qui font régulièrement des champs, on voit très bien où est-ce que c'est parti. Donc ça a menacé notre habitation mais ça s'était arrêté juste à temps avant la crête. Et là hier ça prend et en fait on voit très bien d'où est-ce que commence le feu. Et à cet endroit-là il y a des champs, il faudrait que les gens ils prennent conscience que si vous voulez faire un feu, certes même si l'éco-buage est interdit quand même, mais surveillez vos champs en fait. Parce que là regardez les dégâts que ça a causé, c'est jusqu'à couture. Moi je viens d'arriver du travail. J'ai couru, j'ai passé le feu pour aller sauver mes chiens. Et là, nous, on a des enfants, on a des petits vieux dans les résidences. Nous, on est réactifs, on est jeunes, on travaille pas loin, on peut arriver rapidement. Mais le petit vieux qu'il y a dans notre résidence en chaise roulante, ben lui, je sais pas comment on va faire s'il y a du feu.
À la Pointe à la Dorade, la famille sinistrée a été prise en charge par le CCAS de la ville de Dimbéa, la municipalité qui rappelle également les consignes en vigueur durant cette période de risque de feu de brousse. Patrice Cuer est le secrétaire général de la ville de Dimbéa.
Il est important là, d'éviter donc de utiliser le feu en période de sécheresse. Donc, on a sorti un arrêté interdisant tout feu, barbecue, éco-buage, etc. Surtout que les personnes risquent de devoir payer les interventions des pompiers à raison de 100 000 francs par véhicule et par heure. J'invite tous les administrés à éviter de faire du feu, surtout en cette période de sécheresse et en cette période de vent important.
Deux hélicoptères bombardiers d'eau appuyaient le travail des pompiers ce mercredi. Hier soir, le feu de la pointe à la Dorade était maîtrisé, tout comme le front de feu ayant provoqué l'évacuation de plusieurs résidences près de la ZAC Panda. Mais les flammes sont toujours en évolution dans la brousse, dans le secteur du Pic aux Chèvres. Les pompiers seront encore déployés ce matin et concentreront leurs efforts sur ce feu. Une reconnaissance par drone est en cours dans la zone. Plus de 100 hectares sont déjà partis en fumée.
Et puis des interventions pour les pompiers de Nouméa, signalées également hier à Tindu et à la vallée de Sakamoto, avec quelques départs de feu de végétation rapidement maîtrisés. Et enfin, à Païta, une habitation a été la proie des flammes mardi soir au Mont Mou. Les propriétaires étaient absents du logement qui a entièrement brûlé. La piste criminelle est envisagée. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h36.
Et dans l'actualité judiciaire, un homme a été interpellé dans l'affaire de l'incendie de l'église du Sacré-Cœur de Thiers à Poindimier. C'était le 14 août dernier, Léana.
Il s'agit d'un homme de 24 ans, originaire de la commune et déjà condamné en 2021 pour vol. Il a été confondu par son ADN et ensuite reconnu les faits devant la brigade de recherche de Connay. La perquisition réalisée à son domicile a permis de retrouver du matériel issu d'un vol par effraction commis le 22 mai dernier à la mairie de Poindimier. L'intéressé avoue avoir également brûlé dans la mairie la photo du président de la République, Emmanuel Macron. L'homme sera jugé en comparution immédiate ce vendredi, c'est-à-dire demain, et est actuellement placé en détention provisoire.
Dans le reste de l'actualité ce matin, la vallée du Tir sous surveillance accrue. Depuis quelques jours, un escadron de gendarmerie mobile est déployé jour et nuit dans le quartier.
15 à 20 gendarmes sont présents 24 heures sur 24 dans la vallée du Tir. Grâce à la présence des forces de l'ordre, le niveau de sécurisation s'améliore dans ce quartier marqué par les émeutes du 13 mai. L'objectif est de poursuivre les travaux dans ce sens et d'occuper le terrain de manière permanente, selon le commissaire Alexis Marsan, coordonnateur DGPN pour la Nouvelle-Calédonie.
On a mis un dispositif particulier pour la vallée du Tir, avec une présence 24 heures sur 24 d'effectifs de la gendarmerie nationale qui viennent en renfort sur ce secteur, eu égard vraiment à ce quartier qui n'est pas sans poser de problème. On s'était mis sur les créneaux qui étaient les plus criminogènes, les plus délinquentiels. On avait une activité plutôt en soirée. Et là maintenant, on s'aperçoit qu'il faut occuper le terrain tout le temps pour apporter aussi un sentiment de sécurité au-delà de résoudre les problèmes de délinquance. On voit que de la part des habitants du quartier de la vallée du Tir, il y a un retour en tout cas favorable de la visibilité. Et en fait, notre métier, c'est aussi une part de visibilité qui participe au sentiment de sécurité des gens du quartier.
Malgré cette présence des forces de l'ordre et la baisse de l'activité criminelle, la vie des habitants et des commerçants reste bouleversée. En effet, difficile de reprendre une vie normale quand la quasi-totalité des commerces a été brûlée ou pillée. Et parmi les habitants du quartier, Ivana, 24 ans, est mère de famille. Elle se dit rassurée par la présence des forces de l'ordre car le calme n'est pas entièrement revenu à la vallée du Tir.
Il y a des soirs ça va, il y a des soirs c'est mouvementé. Surtout arrivé vers jeudi, vendredi, comme ça. Les jeunes, ils commencent à boire et c'est reparti, ils refoutent des saletés sur la route. C'est la même chose, quoi. Après, la nuit, les FDO, ils reviennent, ils refont du bruit. Après, ils se reposent pas bien, quoi. On a tout le temps peur aussi. Parce que des fois, il y a des cailloux qui atterrissent sur nos toits. Quand je sors, ça va parce que tout le monde, on se connaît tous ici, tous les jeunes. C'est surtout pour faire les courses. Parce que les petits magasins comme ça, c'est un peu plus cher. On est obligé d'aller un peu plus loin pour trouver des couches câlines surtout. Du lait, parce que le lait aussi, il est cher dans les petits magasins. Pour moi, c'est plus pareil. Surtout pour reconstruire, après, ce sera dur.
Le témoignage d'Ivana, 24 ans, habitante de la vallée du Tir. Pour rappel, près de 7000 forces de sécurité sont présentes sur le territoire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Voici d'abord notre question. Êtes-vous favorable à la présence d'effectifs de gendarmerie en renfort de la police dans certains quartiers de Nouméa, comme c'est le cas à la vallée du Tir? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant. Alors donc, le comité de décolonisation de l'ONU est réuni à New York. 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pense qu'il est utile que les partisans de la France s'expriment à cette tribune. Ils ne sont que 3% à penser que ça ne sert à rien. Merci donc pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, un pas de plus vers un retour à la normale. Les liaisons de bus rail reprennent dès demain sur la côte Est. Le SMTI annonce que le retour entre Yengen et Wailou est de nouveau possible. Les usagers pourront donc bénéficier de nouvelles lignes dès la fin de semaine. Elles desserviront Yengen, Poindimier, Touo, Ponériouin, Wailou, Puebo et Koné. Seules les lignes entre Nouméa Thio et Nouméa Yaté restent suspendues au vu de la situation. Les horaires sont à retrouver sur le site internet du rail. Et puis aujourd'hui, la ville de Nouméa relance les jeudis du centre-ville. Tahiti sera mise à l'honneur de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. L'occasion de vibrer au rythme des danses et des chants traditionnels, savourer les spécialités culinaires ou encore découvrir l'artisanat polynésien. Rendez-vous donc de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. En attendant, il est 6h41, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité calédonienne. Et il a été notamment question de la prochaine visite de François-Noël Buffet en Nouvelle-Calédonie au Sénat la nuit dernière.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous cherchez l'énergie instantanée avec une touche de délice ? Rechargez votre journée avec les parfums irrésistibles Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original.
Plongez dans l'arôme riche du café Nescafé. Boostez votre énergie avec nos boissons prêtes à déguster.
Avec Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original, préparez-vous pour un moment de bonheur caféiné.
Nescafé, rechargez-vous.
Les journées rallongent et les manches de vos vêtements raccourcissent. Et oui, bonne nouvelle, les beaux jours sont de retour chez Gémeaux. Et avec eux, la nouvelle collection Gémeaux jusqu'au 13 octobre. Venez découvrir des tenues légères aux couleurs éclatantes et aux coupes parfaites pour toute la famille. Alors fini les pulls et les doudounes. Place aux t-shirts, débardeurs, chemises, shorts, bermudas, robes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et je le disais donc avant la publicité, il a été question de la Nouvelle-Calédonie au Sénat la nuit dernière. Le sénateur Georges Naturel a interpellé le ministre chargé des Outre-mer au sujet du déplacement qu'il doit effectuer sur le territoire la semaine prochaine, du 16 au 18 octobre. Il s'agit là de la première visite Outre-mer depuis la nomination de François-Noël Buffet. Georges Naturel l'a interrogé sur le but de ce voyage et n'a pas oublié non plus son précédent mandat de maire en évoquant les collectivités municipales à l'heure de la reconstruction.
Je vous remercie de cette marque d'intérêt que vous manifestez ainsi à cette collectivité de la République qui traverse depuis le 13 mai dernier une crise politique, économique et sociale sans précédent, avec 13 morts directement liés aux émeutes. Les Calédoniens entament leur 6e mois de couvre-feu après avoir connu 12 jours d'état d'urgence. Je souhaite relayer auprès de vous, Monsieur le Ministre, les alertes de nombreux maires calédoniens qui sont aux prises avec de vrais dilemmes financiers et doivent arbitrer entre des dépenses qui sont tout aussi essentielles les unes que les autres. Comment reconstruire les édifices publics municipaux détruits alors que les budgets de ces communes ne parviennent plus à assumer les charges de fonctionnement courant? Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, indiquer à la Haute Assemblée les actions prioritaires que le gouvernement entend engager au plus vite pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette crise?
François-Noël Buffet a rappelé qu'il viendrait donc expliquer pourquoi le gouvernement a souhaité reporter les élections provinciales qui étaient prévues au plus tard au 15 décembre prochain. Un texte pour les organiser le 30 novembre 2025 sera étudié le 23 octobre prochain au Sénat. Et puis il viendra parler aussi de la reconstruction.
Les circonstances font qu'il est important de témoigner auprès de nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie de notre solidarité à l'égard de tous ceux qui, depuis plusieurs mois, sont dans de très grandes difficultés, bien évidemment. Je voudrais vous dire que jusqu'à maintenant, l'État a réglé l'urgence. Naturellement, plus de 400 millions d'euros ont été délivrés aujourd'hui à Nouvelle-Calédonie pour permettre de faire face à des situations extrêmement difficiles, y compris d'ailleurs sur des compétences qui ne sont pas les siennes. Cela dit, l'objectif de ma visite porte aussi d'abord sur l'effort de reconstruction qui est absolument nécessaire. Dans l'urgence, c'est-à-dire demain en réalité, nos écoles, nos bâtiments publics, nos entreprises, il faut que maintenant cette reconstruction démarre. Et puis j'irai aussi également pour que nous inscrivions ensemble dans la suite pour la Nouvelle-Calédonie sur une stratégie un peu plus de longue durée, j'allais dire, de reconstruction et de perspective économique.
Et en fin de sa réponse, François-Noël Buffet a tenu à annoncer qu'il rencontrera donc les maires de Nouvelle-Calédonie durant son séjour sur le territoire la semaine prochaine. En Nouvelle-Calédonie, la réforme qui met le feu aux poudres ne va pas assez loin. C'est le titre d'une tribune publiée en mai dernier après les émeutes par un professeur de droit privé à Melbourne, Eric Deschmecker. Nous avons profité de sa présence sur le territoire pour le recevoir et revenir sur les thèses qu'il expose dans la presse, notamment dans le Figaro ou encore dans la revue Conflit. Il a des positions qui sont rarement exprimées publiquement. Et concernant le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral, il écrit ainsi que si ce projet de loi est scandaleux, ce n'est pas, comme le pensent les indépendantistes, en ce qu'il entend redonner le droit de vote à certains, mais en ce qu'il continue de le refuser à d'autres. Et nous lui avons donc demandé si ce n'était pas un peu provocateur.
Mon but n'est absolument pas de provoquer en soi, ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, je crois qu'il est fondamental de dire ce que l'on croit être vrai, même si ça doit faire hurler des gens, même si on sait que ça va les faire réagir. C'est mon rôle d'universitaire et d'essayer de comprendre et de dire ce que je crois juste et pourquoi. Mais en l'occurrence, bon, sur le dégel du corps électoral, je crois avoir tous les principes du droit électoral, du droit constitutionnel avec moi. Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie sont des élections locales en France. Le principe est donc que, sauf règles extraordinaires, comme celles sous lesquelles nous avons vécu ici en Nouvelle-Calédonie depuis quelques décennies, eh bien, tous les citoyens, tous les électeurs peuvent voter. Ça a été confirmé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt. Donc on savait déjà que si la réforme constitutionnelle était passée, elle aurait été censurée par la Cour européenne des droits de l'homme, car n'allant pas suffisamment loin dans ce dégel. C'est-à-dire, ce que la Cour européenne dit, c'est qu'il peut y avoir des exceptions très limitées au droit de vote universel des citoyens, mais certainement pas aussi limitées que ce qui était prévu ici.
Éric Deschmecker constate par ailleurs que l'accord de Nouméa est terminé et selon lui, il ne peut pas y avoir d'accord de Nouméa 2. Il affirme également qu'il n'y a pas de peuple calédonien et que l'on ne peut plus invoquer le droit à l'autodétermination. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. En bref, le gouvernement a arrêté hier un projet de délibération portant revalorisation des tarifs de la redevance superficielle perçue au titre du Code minier de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'abandon de certaines concessions, les recettes de cette redevance ont baissé de 15% entre 2010 et 2024, indique l'exécutif. Des recettes affectées au fonds nickel qui finance des programmes de réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière passée et améliore ainsi le cadre de vie des populations. Le taux de cette redevance n'avait pas augmenté depuis 15 ans. Ce rattrapage va donc générer une hausse de 30% de son tarif par rapport à 2009. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie s'intéresse à la refonte du modèle économique calédonien. Dans une note économique, la CNC propose au pouvoir public deux scénarios de développement économique pour concilier la baisse du coût de la vie et le soutien à la production locale. Alors, quels sont les scénarios envisagés? Comment proposer un système de protection de marché incitatif? Faut-il ouvrir l'économie calédonienne au bassin régional? Eh bien, nous en parlerons avec Stéphane Reterer, le président de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Il sera en effet notre invité tout à l'heure à 7h30. Et puis, comment relancer l'activité des très petites entreprises près de 5 mois après le début des émeutes? Certains tentent de se relever et c'est souvent compliqué pour les TPE, même si elles peuvent compter sur le soutien de plusieurs organismes. Alors, comment accompagner la relance des TPE? Quelles aides sont mises en place? Est-il encore possible pour les petits entrepreneurs de mener à bien leurs projets? Nous en parlerons ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous serons en compagnie de Ségolène Thomas, la directrice régionale de l'ADI en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, mais aussi d'Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA. Nous aurons également pour invité Manon Bénard, qui est coordinatrice du projet Initiative NC, et Émilie Olivier, la fondatrice du collectif d'entrepreneurs La Ruche à la fois. Les jeudis de l'économie, c'est donc à suivre à partir de midi sur Radio Rythme Bleu. Il est 6h49, vous écoutez RRB, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Pour ces vacances, profitez d'aller au marché de mamie ce dimanche 13 octobre sur la place de la mairie de Farino de 8h à midi. Comme à chaque marché, vous trouverez des produits locaux comme achar, charcuterie locale, miel, vanille, choucanac, crabe, bonbons coco, goyave, des produits bio, bref, une quantité de produits à venir découvrir. Sans oublier nos plantes, notre coin artisanal local, notre café et coin restauration pour le pique-nique. Et n'oubliez pas vos glacières en venant faire un tour au marché de mamie ce dimanche à Farino.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Conné.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et quatre voitures ont été incendiées à Cavaillon dans le Vaucluse, juste devant le commissariat. C'était hier soir pour nous. Il s'agissait de voitures de police, clairement identifiées et donc ciblées. Et au-delà des dégâts matériels importants, l'attaque a eu lieu alors que cinq personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment en garde à vue. Une attaque qui intervient, comme par hasard, quelques jours après des opérations place nette contre le trafic de drogue dans une cité locale. Alors pour les autorités, la piste criminelle est évidente et l'enquête progresse déjà, Stéphane Burgat.
En effet, la procureure de la République, Cécile Jansac, après avoir constaté tout à l'heure les dégâts devant ce commissariat, bien promet des résultats rapides dans l'enquête qu'elle a ouverte.
Tous les moyens sont mis en œuvre à ce jour de police et de justice pour interpeller le plus rapidement possible les auteurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on poursuit des gens pour des faits commis en bande organisée et que ces faits-là sont passibles de 20 ans de réclusion. Donc, c'est la première fois que des faits d'une telle gravité se sont produits dans notre juridiction.
Et si les véhicules de police seront rapidement remplacés, la façade du commissariat qui est d'ailleurs déjà en partie nettoyée, eh bien les policiers cavaillonnais comme cet agent qui souhaite rester anonyme à notre micro déplore une étape supplémentaire qui est franchie dans la violence.
Et c'est vrai que de voir ça à Cavaillon, on se dit que là on a passé de nouveau une étape parce que depuis des années il y a des fusillades sur Cavaillon. Là par contre, on vient incendier un commissariat avec des fonctionnaires de police dans le commissariat. Là par contre on franchit un cap.
Et en réponse, les opérations de pilonnage du trafic de drogue reprennent dès ce soir à Cavaillon.
Stéphane Burgat pour Europe 1. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a décidé de déployer la CRS 8 à Cavaillon. Dans l'actualité judiciaire, la lycéenne qui a giflé une professeure qui lui demandait de retirer son voile à Tourcoing sera jugée le 11 décembre. La nuit dernière, elle était convoquée en comparution immédiate et a demandé un délai pour préparer sa défense. La jeune femme ne conteste pas les coups portés à l'enseignante, mais elle nie toutefois avoir proféré des menaces de mort. Volodymyr Zelensky est à Paris. Il va rencontrer aussi cette semaine, par ailleurs, le Premier ministre Keir Starmer au Royaume-Uni et la chef de l'exécutif Giorgia Meloni en Italie. Avant cette rencontre bilatérale à l'Élysée, Emmanuel Macron était en déplacement sur une base militaire du Grand Est. La localisation précise est gardée secrète pour des raisons de sécurité. Et le président y a rencontré notamment des membres de la première brigade ukrainienne formée sur le territoire français pour la rendre opérationnelle et prête à partir au combat sur le front du Donbass. Le reportage d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
Des soldats ukrainiens tirant à balles réelles devant des tranchées. Leur mission, éliminer des éléments de reconnaissance ennemis loin du front face à la Russie. Il s'agit d'un des exercices effectués sur cette base du Grand Est. 2500 soldats ukrainiens sont formés ici par l'armée française, notamment par la section dirigée par le lieutenant Charles.
C'est des soldats qui ont des niveaux assez hétérogènes. Et l'objectif, c'est justement de leur inculquer toute notre expérience opérationnelle pour leur donner, je dirais, un cadre tactique et technique.
Pour Emmanuel Macron, cette formation permet de matérialiser le soutien français à Kiev. Sur place, le président tenait à échanger avec certains de ces militaires ukrainiens qui combattront dans quelques mois au Donbass.
Ça se passe bien le premier jour ici ?
Non, c'est étonnant.
Très intense.
Oui. Vous attendiez à ça ou il y a des choses qui vous surprennent ?
Они, в принципе, совпередивше.
Nous nous projetons déjà vers l'avant.
Merci d'être là, en tout cas. On est fiers.
Je peux chier,
on est fiers de vous former.
1500 soldats français sont mobilisés pour conduire et sécuriser cette formation. Paris fournit également du matériel militaire pour équiper la future brigade.
Et cette future brigade sera constituée à terme de 4500 soldats. Il s'agit d'une première pour Kiev. Paris, en effet, était le premier pays à proposer à l'armée ukrainienne une formation militaire à l'échelle d'une brigade. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le Rouf est de retour avec ses horaires habituels et son service de restaurant traditionnel. Découvrez sa carte aux multiples saveurs et ses formules incontournables. La formule du midi à partir de 3400 francs ou encore le menu complet à 6300 francs à déguster midi et soir. Le Rouf, profitez d'un cadre exceptionnel face au Lagon. Info au 25 07 00 ou sur la page Facebook Le Rouf.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020.
Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du tennis, c'est Gaël Monfils qui n'a rien pu faire face à Carlos Alcaraz. Il n'y a donc plus de Français engagés sur le Masters 1000 de Shanghai. En huitième de finale, Gaël Monfils s'est incliné en 2-7, 6-4, 7-5 face au numéro 2 mondial. On signalera par ailleurs les victoires de Taylor Fritz, facile tombeur de Rune, de Djokovic, de Daniil Medvedev qui s'est défait de Tsitsipas ou encore de Jannik Sinner. En basket, on jouait la deuxième journée de l'Euroleague. Monaco était opposé au Maccabi Tel Aviv, score final 85-79 en faveur des Monégasques. Et puis le sport côté calédonien maintenant avec tout d'abord du football et la sélection calédonienne qui disputera aujourd'hui son premier match des éliminatoires au Mondial, Léana Colombo.
Les Calédoniens sont partis lundi aux îles Fidji dans l'optique de ce premier rendez-vous. Ils affronteront la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Suva. C'est César Zeoula qui sera le capitaine de la sélection A. Après une préparation largement contrainte pour nos footballeurs en raison de la crise insurrectionnelle, la campagne des éliminatoires au Mondial débutera donc cet après-midi. Le coup d'envoi de ce match Nouvelle-Calédonie-Papouasie-Nouvelle-Guinée sera donné à 15h pour nous.
Du handball avec Suzanne Wajoka, prête à faire ses premiers pas dans la cour des grands.
À 23 ans, la Calédonienne sera pour la première fois sous le maillot de l'équipe de France senior pour un stage et une double confrontation face à la Hongrie. L'ailière nous a fait part de sa réaction.
Lorsque j'ai su la nouvelle à la fin de l'entraînement, ma première réaction c'était mes larmes de joie, de fierté, comme un accomplissement un peu. Donc oui, j'étais super contente et très heureuse d'apprendre cette nouvelle et surtout très surprise. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie de me donner à fond encore plus sur les entraînements, sur les matchs, être plus exigeante envers moi-même, disciplinée. Et vraiment concentrée à chaque fois sur les entraînements et sur les matchs et vraiment me donner à fond quoi. Pour les deux matchs contre la Hongrie, un peu stressée de ces deux matchs, mais je pense que c'est du bon stress et vraiment j'ai hâte d'être sur les deux matchs pour vraiment prendre énormément de plaisir, que ce soit sur les matchs ou même sur les entraînements.
Suzanne Wajoka qui sera donc avec l'équipe de France féminine les 24 et 26 octobre prochains face aux Hongroises.
Et puis on termine avec cette super performance d'Axel Raymond au championnat du monde M1 93 kg de force athlétique. Le Calédonien est en ce moment en Afrique du Sud et il a terminé vice-champion du monde. 272,5 kg au squat, 172,5 kg au développé couché et 295 kg au soulevé de terre.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, pour terminer, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur l'île des Pins, la pointe sud, Lifou et Marais, les nuages seront plus présents et pourront donner quelques ondées. Ailleurs, le temps restera agréablement ensoleillé. Le vent pour ce matin orienté sud-sud-est, établi entre 5 et 10 nœuds. Sur l'est, les brises de secteur est souffleront entre 5 et 10 nœuds également. Cet après-midi, les nuages domineront toujours sur la pointe sud, l'île des Pins et Marais, où quelques gouttes seront possibles. Ailleurs, le soleil sera bien présent, en particulier sur la pointe nord. Sur la chaîne, des nuages se développeront et donneront de faibles averses. Ils déborderont ensuite vers les côtes en fin de journée. L'alizé de secteur sud-est pour cet après-midi s'installe autour des 10 nœuds sur l'ouest, l'île des Pins et Marais. Il sera souvent faible sur le nord des Loyautés et sur la côte est. Les températures pour terminer, les températures de la journée sont proches des moyennes de saison, souvent entre 26 et 28 degrés et jusqu'à 31 degrés, ce sera sur la côte ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.